Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idée Noire, comme ça vient de l'être annoncé juste dans l'émission de Canu Info. On vous dit à tout de suite, hein. On vous laisse encore une fois avec le générique. À tout de suite. Eh bien, bonsoir donc à toutes et tous. C'est Idée Noire, comme tous les mercredis, de 20h à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va tout de suite démarrer avec les annonces, s'il vous plaît.
Bonsoir.
Merci.
Pour ce mercredi 18 avril, j'ai la date, parce que des fois, je recherche des émissions et je n'ai pas la date. Donc
je suis toujours en train de chercher les sujets. On est le 18 avril aujourd'hui. Pour les annonces, on va faire assez rapide. Il y a notamment une manif demain, on en avait déjà parlé la semaine dernière, une manif interprofessionnelle de convergence des luttes qui démarrera à 13h30 à Brotteau. On vous parle dans deux minutes du coup du tract de la CGA Lyon sur le sujet. Autre petite annonce, on avait déjà dit aussi la semaine dernière, parce que c'est sur plusieurs samedis, il y a une exposition 30 ans de lutte pour les transports gratuits, transports en commun gratuits. Vous regardez ça sur Rebellion, il y a l'adresse, mais c'est rue Burdeau, numéro 30 et quelques, je ne me souviens plus. Et le soir, il y a un débat, concert hip-hop et open mic en soutien à Jamais Sans Toi. Jamais Sans Toi, vous rappelez, c'est l'association, le collectif qui lutte pour que les personnes, pour notamment les familles scolarisées, aient un toit sous leur tête toute l'année. Ils sont hyper mobilisés là cette année avec le nombre de familles qu'il y avait dans pas mal d'écoles. Et donc du coup, il y a un concert de soutien, donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est au Toy Toy. Le Zinc à Villeurbanne, c'était à partir de 18h. Et pour l'adresse, pareil, vous pouvez choper ça soit sur le site du Toy Toy, soit sur Rebellion. On vous rappelle aussi que lundi soir, à la Plume Noire, il y a des cours de langue. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez donner un coup de main ou si vous connaissez des personnes qui pourraient en profiter. Et donc voilà. Et du coup, pour le programme du jour, il va y avoir un petit communiqué de lui là, sur du planning familial et de la LGP, Lesbian and Gay Pride, sur un débat qui a lieu bientôt, c'est ce vendredi, voilà, du coup, avec une intervenante qui fait partie d'Alliance Vita, on va vous lire ça, et ensuite un autre débat qui s'est, lui, appelé par des associations LGBT, voilà, un débat sur la transparentalité et l'homoparentalité, mais on vous lira tout ça aussi, ça se passera le 27 avril. On y va, du coup, c'est parti. C'est à toi. Ah oui, c'est le TRACCGA, pardon, d'abord.
Ouais, c'est parti pour le
TRACCGA pour le midi de demain, ouais.
Pour faire plier le patronat, généralisons la grève. Dans le privé comme dans le public, la contestation monte face aux nombreuses réformes orchestrées par le gouvernement, face aux attaques sociales d'une ampleur et d'une rapidité inédites, face aux restrictions budgétaires et aux suppressions de postes dont nous sommes les premières victimes, démantèlement de la SNCF, de la santé publique, de la justice, de l'éducation, du secteur social. Nous ne sommes pas dupes face aux justifications. L'objectif est clair. L'ouverture du secteur privé pour augmenter les profits, détruire les derniers acquis sociaux des salariés, qui engendrera une détérioration des conditions de travail et une précarité grandissante. À côté de cela, face à la contestation montante dans plusieurs secteurs, les réponses du gouvernement et de Macron sont quasi les mêmes. Pseudo-consultation, mépris de classe et répression à tout va. Nous sommes toutes et tous concernés et il faut faire de cette journée de mobilisation interprofessionnelle du 19 avril un tremplin pour la convergence de toutes les luttes. Secteur par secteur, métier par métier, nous ne gagnerons rien. C'est toutes et tous ensemble que nous ferons plier le patronat. L'État et le patronat veulent nous monter les uns et les unes contre les autres. Par d'autres lois, comme la refonte de la formation, la réforme de l'assurance chômage ou encore la loi Asile-Migration, l'État mise sur la division pour mieux asseoir sa domination. La question des inégalités sociales et de leur production est volontairement absente des discours. La division entre travailleurs-travailleuses du secteur public et du privé, chômeurs-chômeuses, sans-papiers, etc., est aussi un instrument classique pour tirer les conditions de travail et de vie vers le bas du plus grand nombre. Face à la guerre du tous-toutes contre tous-toutes, opposons notre solidarité et faisons converger nos luttes. La convergence des luttes, une nécessité pour amplifier la contestation. Consciente de la nécessité de lutter sur tous les fronts avec l'ensemble des secteurs professionnels mobilisés, les étudiantes et enseignantes soutiennent activement la grève des cheminots et cheminotes. Dans de nombreuses villes, des assemblées générales interprofessionnelles voient le jour. Des jonctions se font avec des bouts de résistance déjà existantes dans la société. Ainsi, les luttes entamées de longue date pour dénoncer les politiques migratoires et refuser la loi Asile et Immigration se joignent aux autres composantes du mouvement social. Il faut multiplier les axes de convergence qui est la base d'un mouvement d'ampleur et qui est combattu par le gouvernement et les syndicats d'accompagnement type CFDT. Construisons dès maintenant un autre projet de société égalitaire et libertaire. Des foyers de résistance et de solidarité directe existent face à un système qui ne cesse de broyer l'ensemble des solidarités sociales. Dans l'occupation d'une université comme dans un mouvement de grève, des choses s'apprennent et s'expérimentent, qui donnent de la force parce que des rapports collectifs solidaires existent, qu'on peut y faire l'expérience d'une démocratie directe. En auto-organisant nos luttes et en élaborant collectivement nos revendications et modes d'action, nous pouvons commencer à construire un projet de société basé sur l'autogestion, la démocratie directe, l'égalité économique et sociale et faire vivre le communisme libertaire.
On n'a pas mis la musique sur la fin du tract, ouais. Mais on aurait pu mettre un petit truc. Ouais.
Voilà, donc c'était le tract de la coordination des groupes anarchistes pour la manifestation interprofessionnelle de demain, 19 avril.
Voilà, donc on vous appelle à nous rejoindre. Donc c'est à partir de 13h30 au Brotteau. Nous, on aura un petit point fixe, du coup, un petit point fixe avec banderole. Et puis après, du coup, on se rejoindra dans le cortège. Donc n'hésitez pas, vous, à nous y rejoindre aussi. Voilà, donc la manif ira des Brotteaux jusqu'à la place Bellecour, il me semble. Voilà,
ouais,
donc ça
va bon
faire
trajet.
Un bon long trajet. Mais vu qu'il y avait eu du monde le 22 mars, il risque d'avoir beaucoup de monde encore demain. Donc voilà, on espère que, du coup, quand on partira, si on est derrière, du coup, que les gens soient presque déjà arrivés, quoi. Que le cortège s'étende sur plusieurs centaines de mètres. Donc voilà, donc comme promis, donc, on va vous lire le communiqué commun de la LGP et du planning familial sur un débat qui aura lieu vendredi.
La LGP, c'est
Lesbian and Gay Pride, ceux qui organisent du coup la Pride tous les ans sur Lyon. Mais c'est bien de le demander. Mais je l'avais dit avant, vous n'avez pas suivi.
De le rappeler, c'est bien aussi.
Oui, aussi, ouais.
Parce que tout le monde n'est pas tant de l'attention comme moi, quoi. Enfin, toi.
Oh yeah. Bon, let's go. Alors, le vendredi 20 avril prochain, donc c'est ce vendredi, l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, chargé d'organiser les débats des états généraux de la bioéthique préparant la révision de la loi à l'automne 2018, organise un débat citoyen à l'université Laennec, Lyon 1, autour de la thématique suivante, PMA vers une nouvelle conception de l'humanité. Nous, militants et militantes féministes et LGBTI, trouvons scandaleuse l'invitation faite à Blanche Streb, activiste et salariée d'Alliance Vita, dont les positions contre la PMA pour toutes les femmes sont de notoriété publique. Nous rappelons qu'Alliance Vita, fondée d'ailleurs par Christine Boutin en 1993, est un lobby militant contre l'avortement, qui fait partie des organisations possédant des lignes téléphoniques abusant les femmes souhaitant trouver des informations fiables sur l'avortement. En 2013, cette même association a pris position contre l'ouverture du mariage à tous les couples, et a participé aux manifestations homophobes organisées par la Manif pour tous, dont Alliance Vita est d'ailleurs très proche. Nous condamnons le choix fait par l'ERERA d'inviter une militante d'Alliance Vita, organisation qui se positionne contre l'égalité, refuse le droit des femmes à disposer de leur corps et prône l'oppression des femmes et des minorités sexuelles et de genre. Gageons que cette rencontre sera, encore une fois, la caisse de résonance des mouvements réactionnaires qui vont venir déverser leurs slogans haineux à l'encontre des femmes et des LGBTI. Nous condamnons également leur choix de ne pas inviter des personnes concernées à ce débat. Ainsi, nous interpellons les institutions publiques qui soutiennent l'ERERA et leur demandons de réagir, l'ARS, les universités Lyon 1, Saint-Étienne, Clermont-Auvergne, Grenoble-Alpes et leur CHU, ainsi que les hospices civils de Lyon. Nous exigeons que ce débat citoyen, entre guillemets, soit entièrement repensé avec l'exclusion de Blanche Streb et la participation des membres d'associations LGBTI réfléchissant depuis de nombreuses années sur ces questions et défendant l'égalité des droits pour toutes et tous. Si vous voulez contacter le planning familial, il y a des numéros, la LGP aussi.
On a mis sur la page réseau social, de toute façon, les coordonnées, parce qu'ils sont à la fin du communiqué.
Ça se trouve sur Internet.
Ouais. Et du coup, ce que je voulais juste rajouter, c'est que ce communiqué de presse a été envoyé. D'habitude, il y a quand même une petite caisse de résonance au niveau des médias, les masses médias. Et là, du coup, en tout cas, cet après-midi, il n'y avait aucun relais presse, du coup, de ce communiqué. Voilà, sur les sur les médias habituels, on va dire, entre guillemets. Aucune nouvelle des organisateurs qui font pour l'instant la sourde oreille. Et ils ont notamment changé d'amphi. Et donc, bah, avant, c'était un amphi de 200 ou 300 places. Maintenant, c'est un amphi de 500 places qui est réservé. Voilà, il y a aussi des appels au planning avec des insultes au standard, voilà, pour les personnes qui répondaient au téléphone. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces débats, là, pseudo-citoyens, voilà, ils sont ultra investis par la Manif pour tous et par toute leur... tous les petits groupuscules qui tournent autour, et que voilà, donc tenez-vous courant par rapport à vendredi, voilà, s'il n'y a pas de changement de programme, il est possible qu'il se passe des choses, donc tenez-vous courant, on balancera des infos tranquillement sur page réseau social, par texto, etc. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, voilà. Et du coup, on va enchaîner avec du coup là un débat pour lequel on vous conseille d'aller, qui se passera vendredi prochain.
Voilà, du coup, c'est reprendre en fait le thème du débat pour justement l'amener de manière un peu plus politisée et plus égalitaire, évidemment. Donc, dans le cadre des états généraux de la bioéthique, nos organisations ont le plaisir de vous convier à un débat politique qui s'appelle « Transparentalité, homoparentalité, quel mode de procréation pour les minorités sexuelles ?» Ce sera le vendredi 27 avril à 19h30, donc vendredi, pas celui-là, mais le prochain, à la mairie du 1er arrondissement, donc 2 Place Satonnet à Lyon 1er. Donc voilà, lancé le 23 janvier 2018 par le gouvernement d'Emmanuel Macron, les états généraux de la bioéthique prévoient l'organisation de débats rassemblant aussi bien des citoyens et citoyennes que des experts et expertes, sociologues, scientifiques, etc., et des militants et militantes du monde associatif ou de courants religieux, entre guillemets. La plupart des débats qui abordent les questions liées à la PMA et à la GPA ont été pris d'assaut par les militantes de la Manif pour tous, venant en surnombre monopoliser la parole et empêcher l'expression des personnes concernées par le sujet. Avec des propos extrêmement violents envers nos familles, ces échanges ont été le lieu d'une diffusion massive de propos homophobes, lesbophobes et sexistes. Ces propos rappellent ceux exprimés dans la rue et les médias en 2013 lors du projet de loi pour l'ouverture du mariage à tous les couples qui avait entraîné une recrudescence des violences à l'égard des personnes LGBTI. Face à une consultation nationale largement préemptée par des militants réactionnaires, il est nécessaire que toutes les personnes LGBTI se réapproprient ce débat. L'autre problème de cette consultation nationale réside aussi dans le choix fait par le gouvernement de placer l'accès aux droits et l'égalité sur le plan de l'éthique. Ce choix n'est pas anodin, il participe à ce climat délétère qui permet à des mouvements réactionnaires de s'emparer de cette question en l'abordant uniquement par le prisme du jugement moral. C'est pourquoi, le 27 avril 2018, nos organisations souhaitent proposer un temps d'échange qui permettra de penser la PMA et la GPA comme des enjeux politiques qui, aujourd'hui, nous interrogent et parfois nous divisent. Nous ne souhaitons pas orienter préalablement le débat qui doit naître de notre rencontre, mais pouvoir réellement questionner ce que représente l'accès à ces droits. Que signifie concrètement l'ouverture de la PMA à toutes les femmes? Qu'impliquerait le fait d'avoir recours à la gestation pour autrui? Quels droits et accès à la procréation et à la parentalité pour les personnes transgenres? Même s'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur ces questions entre les associations défendant les personnes LGBTI et ou féministes et les organisations syndicales et politiques et même entre les personnes qui composent ces différents mouvements, nous devons nous en emparer et les repolitiser. Nous devons ainsi revendiquer que les positionnements politiques sur les modes de procréation des minorités sexuelles reviennent en premier lieu aux minorités sexuelles qui doivent être prises en compte en priorité. C'est pourquoi ces rencontres du 27 avril feront se croiser des témoignages de personnes LGBTI, le point de vue de professionnels du droit et de la santé et des analyses politiques de militants et militantes. Un temps d'échange avec le public permettra à toute personne de témoigner et ou de poser des questions afin que nous puissions collectivement faire avancer notre réflexion et nos positionnements respectifs, mais aussi nécessairement nous informer. Donc voilà, celui-là, on vous conseille
d'y aller. En plus, voilà, ça peut être intéressant d'avoir justement comme c'est basé avec des personnes qui sont concernées. Au moins, ça n'a pas le même débat que celui qu'il y a dans 2 jours. On a pris une petite pause musicale après ça, si ça vous va.
Mais tout à fait, je vais m'y mettre tout de suite. On va écouter Ferrat. Alors, je ne sais pas si c'est le nom du morceau ou l'interprète. J'ai sorti un vieux CD de Derrière les fagots de la Plume Noire.
D'accord.
On va écouter ça, allez.
Rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de l'émission de la coordination des groupes anarchistes, Idées Noires. Et après la pause musicale, bah, habituellement, on fait un jet de lutte sociale. Et c'est parti.
C'est parti pour Lyon et Ivry-sur-Seine, donc à côté de Paris. Alors ça dégraisse sec hein, chez, par exemple, Biomnis, qui est un labo, un laboratoire d'analyse. Du groupe Eurofin, qui est en fait un réseau, eh bien, il y aura 650 employés, dont 93 emplois partiront en fumée sur les deux sites, dont 79 à Lyon. Alors, comment on fait les choses en grand en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez compris, hein, sous le signe, sous l'étendard, je dirais, même le fleuron national, ben, des transferts sont prévus, Lyon-Paris, Paris-Lyon, et bien sûr, Pôle emploi éventuellement. En général, ça se termine plutôt ces histoires-là en eau de boudin, à savoir bon, des grosses restructurations, hein, c'est un peu partout, c'est la mode. Donc c'est la marotte aussi des groupes comme Eurofin pour l'établissement Biomnis qui n'y coupe pas. Le 5 avril, eh ben, il y avait une grève sur les deux sites, donc à Paris et à Ivry, environ 120 personnes sur ces deux sites pour des augmentations salariales à piquer sur les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe. Alors, proposition de la direction, il y en a une quand même, c'est 0,2% au général, puis 0,4% devant cette pression et toujours la grimace du côté des salariés au siège social, bah, c'était accepté apparemment. Alors plus tard, c'était 0,66 et en général, et 0,33% en individuel et 200 euros de prime pour couvrir les moments de grève. Alors certes, on peut voir ça comme une avancée à la mi-temps, hein. Reste qu'il y a la deuxième période à venir. Il faudra pas oublier évidemment ces protège-tibias. Et je dis là à suivre, sachant qu'il y a récurrence chez Biomnis, puisque ce genre d'affaires, ben, c'est arrivé en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. À Colmar maintenant, ben, c'est une grève des éducateurs et éducatrices, c'est à la Cité de l'Enfance. Donc alerte à plusieurs niveaux, effectifs réduits et désaccord avec la directrice, avertissement à l'attention donc, de la collectivité départementale. La Cité est quand même un établissement d'accueil et de protection des enfants et ou mineurs. C'est une structure médico-sociale. Les trois quarts des éducateurs et éducatrices étaient en grève le 11 avril parce qu'ils et elles se disent épuisés par des journées de 12 heures. Ils et elles donc demandent des embauches. Maintenant, les agents du nettoyage, tous les agents, ça concerne plutôt tous les agents du nettoyage et les collectes de déchets, bah, qui colèrent encore, hein, comme à Belfort par exemple, c'était le 10 avril, avec une grève qui a démarré quand même le 3 avril avec la CGT. Alors au menu, il y a les salaires, les retraites, la pénibilité, la santé. Toutes ces revendications sont mises donc à la benne par les directions publiques ou privées qui n'en font pas bien cas. À 50 ans, bah, t'es cuit hein, dans ce genre de métier. Outre les demandes habituelles, est exigé du personnel en CDI, les contractuels notamment, à qui est refusée la titularisation pour des raisons fallacieuses. Alors, le mouvement a été suivi quand même à 75% pour des revendications nationales, puisque c'était au niveau national. La CGT exige la création d'un service public national des déchets à statut public unique. Dans les revendications aussi, il y avait la réduction du temps de travail. Dans les Bouches-du-Rhône, depuis le 3 avril, hein, c'est une grève des employés de La Poste. Hein, j'en ai marre de dire facteur, factrice. Voilà, donc c'est les employés. Puis en fait, de toute façon, ça ne concerne pas que les facteurs et les factrices. Ça concerne aussi tous les gens qui travaillent à la Poste. Et à Marseille notamment, c'était le 4e, le 14e arrondissement. Et au 13 avril, ben, c'était la grève qui tendait à se propager au 6e, au 10e, 11e et 13e arrondissement, et même le 14e. Et aussi deux centres de courrier sur quatre. Alors c'est du jamais vu apparemment, selon les spécialistes. Ici, le spécialiste, c'est Sud APT, c'est-à-dire Activité Postale et Télécommunications des Bouches du Rhône. Et cela depuis 2008. Alors je dirais quand même ces années qui finissent en 8, hein, c'est vraiment ça, c'est chaud quoi. Donc la colère vient de cette recomposition de l'organisation que l'on connaît bien, et puis que personne ne veut d'ailleurs, les contrats en CDD, facile à mettre un coup de canif hein, dans ces fameux contrats. Plus 58% quand même de CDD en 10 ans hein, à la Poste. Emploi précaire, emploi d'enfer pour la direction, un enfer pour les salariés quand le trafic colis est en hausse de 8% par an et les colis internationaux aussi de 15%. Sans parler évidemment du fameux service à la personne, hein, ce nouveau service à la personne, avec ce slogan donc de la Poste, la Poste plus proche de chez vous, enfin etc. Mais avec un objectif quand même, 120 millions hein, de chiffre d'affaires pour 2020 pour les Bouches-du-Rhône. Alors le chiffre du CA donc est global, c'est 25 milliards quand même à la Poste, hein, ils sont pas pauvres, hein, car les services à la personne type la Poste est payant. Oui, alors qu'auparavant, bah, les menus services qui étaient rendus par les postiers et postières eh bien, étaient gratuits. Alors normal, puisque l'utilisateur, l'usager est devenu soudainement le client et la cliente, voire peut-être une buse, voire un pigeon, voire même un gros pigeon bien gras, quoi, hein. Voilà. Et aussi, y a un hôpital aussi, hein, ça continue dans les hôpitaux, des personnels de santé en grève. C'est ici à Amilly-Montargis, dans le Loiret, avec une centaine de personnes qui ont investi le CHSCT et qui étaient très en colère contre une réorganisation pour le mois de mai, contre les plannings de 12 heures qui ont supprimé des emplois. Et ça continue, ce qui amène une dégradation dans les services. L'intersyndicale a demandé un audit pour arranger la sauce, qui a déjà bien prise en termes de baisse d'effectifs, incontournable selon la direction, qui justifie par la pression du ministère des banques pour un plan de retour à l'équilibre. Alors, faut taper dans le muscle. Le muscle, c'est le variable d'ajustement, hein, c'est-à-dire nous autres, les salariés. Et puis, pour terminer cette première page, c'est à Bessines-sur-Gartempes. Excusez-moi du peu, mais c'est en Haute-Vienne.
Mais c'est bien, ça fait réviser la géographie.
Oui, tout à fait, oui.
À Haute-Vienne,
je ne vous ai pas demandé quand même, je n'ai pas été visible.
Ouais, non, mais c'est ça.
Où c'était quand même.
On pourrait faire un petit concours, on marquerait des points.
Tout à fait, ouais. Et donc, c'est en Haute-Vienne, avec 115 salariés de l'usine Steva, qui fait là, dans l'emboutissage, qui ont manifesté à Limoges le 10 avril. La préfecture aussi a eu sa manifestation, et ils ont occupé une partie de l'autoroute. Leur entreprise est placée en redressement judiciaire, en observation jusqu'au 5 juin. Alors, ça sent mauvais, là, hein, quand c'est en observation. Alors, elle fait partie, donc, cette entreprise du groupe Altia, enfin ex-Altia, tout comme, si vous vous rappelez, de GM et S, hein, qui sont toujours en bagarre, d'ailleurs, à la souterraine. Au rachat de la société, il y a eu des licenciements, déjà, des pauses et des RTT diminués. Alors, ça sent, évidemment, la déconvenue parmi les salariés. Un demi-salaire qui a été touché en mars, et le moral en baisse, évidemment. Les actionnaires en demandent toujours plus, et c'est même des actionnaires de ex-Altia et propriétaires qui sont propriétaires de l'usine, donc des murs, voilà, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Steva a reçu quand même une aide, bien pour faire enrager là, hein, Steva a reçu une aide régionale à 900 000 euros et qui date de décembre 2017. Voilà. D'accord. Pour cette première page.
Merci pour la première page.
Merci.
Du coup, on va faire un petit tour sur Montpellier, parce que ce week-end, il y avait une manifestation, enfin, il y a eu une tentative de manifestation puisqu'elle a été bloquée. Il y a eu une tentative de l'interdire dans le centre-ville. Il y a eu quelques dégradations de venture et 51 personnes arrêtées. Voilà, c'est le bilan de la manifestation du 14 avril, donc de ce samedi qui vient de passer, au lieu depuis quelques semaines de la contestation étudiante. En fait, avant ce manif-là, il y avait une manif du coup en soutien aux migrants et aux migrantes du collectif Là-bas 34 qui a rejoint cette deuxième manifestation pour essayer justement de faire converger les luttes. Et ben, la deuxième manifestation n'a pas pu démarrer sans pour autant qu'un arrêté interdisant le défilé n'ait été pris par la préfecture de l'Hérault. Il y a donc ce samedi 14 avril, il y avait une douzaine de véhicules de police étrangement positionnés au début de parcours de la manifestation donc nationale contre la casse de nos droits sociaux et politiques qui avait été appelée par la Coordination Nationale des Luttes et des Comités de Mobilisation des Universités de Montpellier. Une trentaine de membres des forces de l'ordre est déployée, harnachés, boucliers et armes au poing. Le cortège de tête s'avance encapuchonné, ouvrant le défilé, faisant face à une douzaine de policiers barrant le boulevard. Donc les manifestants sont bloqués donc par une poignée de policiers particulièrement nerveux, une quinquagénaire filmant la scène de trop près, autocollant de la France Insoumise collé sur la veste et projeté au sol par un policier. Ils sont méchants avec les France Insoumise, c'est pas possible. Le cortège avance, de rares projectiles sont lancés auxquels répondent forcément une pluie de grenades lacrymogènes. Un épais brouillard enveloppe le boulevard et la plupart des manifestants refluent. Parmi les quelques 2000 personnes présentes, quand même difficile à comptabiliser compte tenu du non-démarrage du défilé, des étudiants et étudiantes, des syndicalistes, des personnels enseignants des universités, mais aussi quelques cheminots, des migrants et un cortège donc de la France Insoumise réunis dans une convergence des luttes souhaitée pour cette manifestation. Donc malgré ce petit barrage policier, donc sur un boulevard qui s'appelle le boulevard Le Dru-Rollin, si vous connaissez Montpellier, bah vous reconnaîtrez l'endroit. La manifestation finit par repartir à contre-courant, donc direction ce coup-ci la place de la Comédie en passant sans encombre devant la préfecture puis en empruntant l'artère commerçante du centre-ville. Par contre, la place de la Comédie, donc une des grosses places de Montpellier, elle est bloquée par un important dispositif policier comprenant des canons à eau. Donc le défilé il oblique pour une autre route, pour rejoindre un autre boulevard et le point de départ de la manifestation pour faire un petit tour. Là, des devantures de banques, d'agences immobilières et d'opérateurs téléphoniques sont cassées ou repeintes sur le parcours. Après avoir déambulé pendant plus d'une heure dans le cœur de la ville, les manifestants et manifestantes sont pris en tenaille, puis arrosés de lacrymogènes de toutes parts. Fin de la manifestation. Une heure plus tard, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui tournent un peu sur le net, mais il y a une cinquantaine de manifestants et manifestantes qui sont pris dans une nasse policière, gazés à deux pas de l'université Paul Valéry. Plusieurs d'entre eux sont blessés et emmenés à l'hôpital en ambulance. Et la police donc procède à 51 interpellations. Et elle réquisitionne donc des bus de ville pour les conduire au commissariat. Ça va loin quand même. Hein. Des arrestations dénoncées donc notamment par la LDH de là-bas. Voilà, donc ils disent la LDH. Donc ces interpellations ont eu lieu alors que les manifestants étaient calmes et sans dégradation visible aux alentours. Et voilà, et ils commandent considérer que la mise en place de cette NAS constitue une atteinte au droit, au libre droit de manifester. Alors forcément, à l'issue des 24 heures de garde à vue, quand même, hein, les 51 personnes sont relâchées dimanche après-midi sans poursuite. Les arrestations non ciblées y ont lieu presque 2 heures après les dégradations. Donc après, il y a une intervention du coup policière qui pose bien des questions par rapport à la manif en elle-même, parce que le choix de disposer des véhicules et des policiers armes pointées au contact du début de la manifestation a créé une tension immédiate et prévisible. La suite de la stratégie de maintien de l'ordre est encore plus étonnante. Une douzaine de policiers seulement pour barrer la route à quelques 2000 manifestants. À coup sûr, l'assurance qu'ils soient débordés face usage de leur équipement anti-émeute et que la manifestation se transforme immédiatement en affrontement. L'officier en charge des forces de l'ordre a affirmé, devant les caméras de France 3, avoir eu pour consigne d'interdire l'accès au centre-ville pour éviter des dégradations. Pourtant, malgré la tension provoquée par cette première confrontation, aucun dispositif complémentaire n'est en place pour empêcher la manifestation de prendre l'autre entrée vers les rues commerçantes situées à quelques dizaines de mètres. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on voit dans cette manif sur Lyon. Ça avait déjà été le cas l'année dernière avec directement voilà, des flics très proches, très agressifs pour faire péter le truc et ensuite de laisser faire un peu les gens. Parce que là, Montpellier, quand même, c'est quoi, un peu plus petit du coup, mais voilà, il y a plein de petits trucs qui vont dans le centre-ville et là, il y a eu un laisser-faire justement, je pense, pour qu'il y ait aussi quelques cas qui puissent justifier après les arrestations. Voilà, c'était un petit article du coup du site Rapport de Force, voilà, média libertaire d'un camarade. N'hésitez pas à vous y rendre et à le soutenir. Voilà, et je voulais vous lire un deuxième petit article, enfin, du coup, en le résumant un petit peu. Hein, voilà, c'est sur notamment parce qu'il y avait donc une manif avant contre le projet de loi Asile et Migration. Il y a le groupe de la CEJA Montpellier qui est beaucoup investi dans ce collectif 34 de solidarité avec les migrantes et les migrants. Et du coup là c'est une interview en fait d'une personne qui s'appelle Sophie Mazas qui est avocate spécialisée en droit des étrangers et du coup qui répond aux questions notamment sur le temps d'étude d'une demande d'asile. En fait, avant, vous savez, il veut être réduit par ce projet de loi, ce temps d'examen, voilà. Il veut être réduit à 6 mois, appel inclus. Voilà, aujourd'hui, il est de 11 mois en moyenne, voilà, pour un dossier de demande d'asile. Du coup, il y a une question, ça permettra aussi à tout le monde de savoir un peu comment ça se passe. Comment ça se passe, normalement, une procédure de demande d'asile? Alors, ce qu'il faut faire, il faut d'abord aller sur la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile afin de prendre un rendez-vous en préfecture au guichet unique pour les demandeurs d'asile. C'est le GUDA, voilà. Il y a une queue de fou des fois quand vous y allez, c'est assez hallucinant. Lors de ce rendez-vous, les empreintes du demandeur sont prises pour éventuellement lancer une procédure Dublin. On rappelle, procédure Dublin, c'est si jamais dans le périple qu'ont affronté les migrants et les migrantes pour partir de leur pays et pour arriver notamment en France, ils ont traversé plusieurs pays et s'ils sont arrêtés dans un pays et que leurs empreintes sont prises, en fait, ils dépendent entre guillemets au niveau légal de ce pays-là. C'est-à-dire que s'il arrive en France mais que ses empreintes ont été prises en Italie, si l'Italie le souhaite, ben, cette personne-là est renvoyée en Italie pour que son dossier de demande d'asile soit étudié là-bas. Je prends l'Italie, mais il peut y avoir pas d'autres pays différents comme ça. Donc, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de procédure Dublin, ben, la préfecture enregistre la demande et donne le dossier à remplir à l'Office français de protection des réfugiés apatrides, la fameuse OFPRA, et ensuite le demandeur passe devant l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour évaluer s'il a besoin d'être hébergé. À partir du moment où le demandeur a reçu son dossier, il a 21 jours pour le compléter et le rendre. Donc vous imaginez les problèmes qu'il peut y avoir aussi en termes de traduction, de langue, voilà, etc. En plus, il faut mettre ça par écrit, c'est jamais évident quand même de mettre par écrit des choses, et après il faut témoigner aussi à l'oral, donc c'est pas évident. Il n'y a pas toujours des traducteurs en plus qui sont très bons là-dedans, parce qu'il y a quand même différentes langues qui sont plutôt des fois assez rares, et on n'a pas assez d'interprètes notamment en France. De là, si la personne passe en procédure accélérée, la convocation pour un rendez-vous à l'OFPRA ne prend que quelques semaines, comme l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, en cas de refus. En procédure normale, ces délais peuvent prendre plusieurs mois. Du coup, on demande à quoi consiste ce dossier, puis le rendez-vous à l'OFPRA. Donc, en plus des renseignements et des pièces administratives telles que des photos d'identité ou l'attestation de demande d'asile remise par la préfecture, il faut expliquer pourquoi on demande l'asile. Alors, par rapport au papier, c'est compliqué aussi parce que y a certaines personnes qui partent sans rien, où il y a des personnes qui perdent tout dans leur trajet et que du coup, pour justifier d'une identité, voilà, ils se les font voler, voilà, etc. Et donc, du coup, voilà, ils se retrouvent sans papier, donc ça complexifie encore en plus la demande. Et donc, à la préfecture, il faut demander pourquoi on demande l'asile. C'est ce qu'on appelle le fameux récit. Là, la personne explique pourquoi elle a fui son pays et pourquoi elle demande l'asile. Si elle a des preuves, il faut les joindre. Donc, c'est là, du coup, notamment où le tri, entre guillemets, est fait entre les migrants qui fuient une guerre, voilà, une oppression politique ou de genre, ou pour leur orientation sexuelle, et les migrants qu'on appelle les migrants économiques, mais qui fuient à cause de la misère. Du coup, là, il y a la question, et après, pourquoi le délai avant la convocation à l'OFPRA est-il si important? Ben, en fait, tout le travail consiste à utiliser le temps entre la saisine de l'OFPRA et la convocation pour étayer le récit. Il peut s'agir d'obtenir un rendez-vous avec le service de médecine légale pour faire constater des violences subies. Malheureusement, il y en a énormément. Ça peut être morceaux de balles dans le corps, cicatrices ou liaisons. Ça peut être violence notamment sur les femmes. Voilà. Après, pour les femmes victimes de violences, il faut du temps pour établir un rapport de confiance et entamer le récit. Pour les fillettes victimes d'excision, par exemple, il faut prouver que la pratique existe dans la zone d'où elles arrivent, qu'elles font partie d'une ethnie ou d'un groupe social qui la pratique et que leurs parents ne peuvent pas les protéger. Il faut à la fois creuser et documenter le récit, ce n'est pas toujours facile. Pour les homosexuels venant de pays où l'homosexualité est réprimée, il faut expliquer qu'en France, ce n'est pas une pratique condamnée et qu'on peut aborder ces questions ouvertement, sans jugement moral. L'OFPRA va lui poser des questions très intrusives et intimes sur sa vie privée. Donc il y a une question effectivement très importante, c'est par rapport à l'accompagnement de ces personnes-là. La question du journaliste, du coup, de rapport de force, c'est l'accompagnement est-il essentiel? Eh bien effectivement, parce qu'avant la convocation à l'OFPRA, les demandeurs d'asile voient rarement un avocat. En général, ce sont les travailleurs sociaux dans les centres d'accueil aux demandeurs d'asile, les fameux CADA, qui aident les gens à faire leur récit. Les CADA, c'est là où sont hébergés du coup les demandeurs d'asile, le temps que la demande soit étudiée, ça peut prendre plusieurs mois. Donc s'ils ont besoin d'un hébergement, il ne faut pas qu'ils soient à la rue. Du coup, donc les travailleurs sociaux qui aident ces gens à faire leur récit. Quand les personnes sont placées dans les structures d'hébergement d'urgence, faute de place en CADA, le travailleur social n'est pas souvent là et l'accompagnement n'est pas fait. Il y a plus d'hébergement qu'avant, ce qui est bien, mais le niveau de travail social baisse. Quand les services sont débordés, ce sont des bénévoles de la CIMAT, par exemple, qui pallient parfois au manque. Il y a aussi des problèmes de langue. Voilà. Si le demandeur d'asile n'est pas en CADA, il doit payer son interprète ou se débrouiller. Et comme je disais tout à l'heure, les interprètes ne sont pas toujours fiables aussi. Par exemple, elle prend un exemple, cette dame. Quand je reçois une Nigériane qui est dans un réseau de prostitution ou qui vient avec une femme de 40 ans ou un homme, c'est compliqué. Est-ce que l'information est bien retransmise? L'accès à un vrai interprète n'a lieu que le jour de l'audience à l'OFPRA à Paris, parce qu'en plus il faut monter, il faut payer le trajet pour aller à Paris. C'est souvent après un rejet de leur demande par l'OFPRA au moment de l'appel que les demandeurs d'asile sollicitent un avocat. Et là, il demande une deux dernières questions. C'est la question de la preuve est-elle importante ? Ben, en gros, il y a une suspicion généralisée, mais ça, je pense que c'est classique, malheureusement, où les magistrats instructeurs partent du principe que les gens mentent. Nous avons un gros travail de recherche, car selon le pays d'où l'on vient, on n'arrive pas avec un sac rempli de preuves. Par exemple, pour un Kurde de Turquie qui a participé à la confrérie Gulen, il faut prouver que quelqu'un de proche a été arrêté et en détention pour cette raison. Il faut récupérer des copies de courrier et enveloppes envoyées à la famille, des coupures de presse relatant l'arrestation, des fiches de paye s'il était salarié de la confrérie, etc. Éventuellement, demander le jugement validé par la cour d'appel en Turquie qu'il condamne, etc., etc. Mais quand c'est l'appareil d'État qui opprime, cela peut mettre les familles en danger et les avocats ne veulent plus le faire parce que 1200 d'entre eux sont poursuivis ou en détention. Effectivement, si vous êtes dans un pays où vous êtes réprimé, si vous faites appel à votre famille ou à des avocats pour qu'ils envoient les preuves, ils peuvent être eux aussi arrêtés ou il peut y avoir du chantage dessus. Donc il faut trouver un interlocuteur sur place pour se faire envoyer des documents et garder les enveloppes pour avoir une traçabilité. Enfin, il faut prouver que c'est un ami. Le délai sert à tout cela. Et donc voilà. Et après, il y a une question sur les recours devant la CNDA. Donc c'est la cour d'appel. Ils étaient en grève là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils demandent si ce n'est pas vidé de leur substance dans le projet de loi. Mais en fait, les délais pour faire appel doivent être réduits d'un mois à 15 jours et ne seront plus suspensifs de la décision de l'OFPRA. Donc pendant ces 15 jours, le demandeur d'asile doit prendre rendez-vous chez l'avocat. De l'autre côté, il faut recevoir la personne, éventuellement trouver l'interprète, reprendre le compte-rendu de l'audience et critiquer sur sa décision, éventuellement retravailler le récit et amener des éléments nouveaux. En réalité, en l'espace de 2 ans, nous avons tout perdu, la collégialité de la décision de la CNDA et le caractère suspensif des recours, parce que si on vous demande de partir, on peut vous renvoyer chez vous, même pendant le recours en fait, que vous avez pour faire appel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Le projet de loi asile-immigration, il est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale, il me semble, en même temps que aussi la loi de réforme sur la SNCF. Hein, voilà, il y a beaucoup de discussions sur pas mal d'articles. C'est un projet bien pourri qu'on n'a pas eu depuis vraiment très longtemps. C'est pas étonnant que ce soit Colomb qui soit à la manœuvre là-dessus. Ouais. Et il va falloir vraiment. Et donc il y a le collectif notamment Migrants 69, de solidarité avec les migrantes et les migrants 69, qui sera demain à la manif du 19 avril pour essayer de faire converger les luttes, avec un point fixe également et une distribution de tracts pour protester contre ce projet de loi. Voilà, voilou.
Très bien.
Suivant. Merci pour cette description du parcours du combattant.
Ouais, c'est fou. Ouais.
Oh, c'est même pire que ça. J'ai fait le parcours du combattant.
Non, mais c'est hallucinant. On peut faire une petite pause musicale, faire la deuxième page de lutte derrière, puis après on a 2-3 trucs pour compléter la fin de l'émission.
On va écouter un groupe qui s'appelle les Arsène Lumpunk, qui sont venus, qui sont plusieurs fois à la plume. Souvent par solidarité, et qui sont venus assez régulièrement à la plume. Donc les voilà.
Can't be.
rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes, et on enchaîne avec une deuxième page de lutte sociale.
Oui, vas-y, balance. Alors, c'est reparti pour une lutte, enfin une série de luttes, c'est les Sables d'Olonne. Alors quand on parle des Sables d'Olonne, ça sent bon les vacances, hein, ça arrive. Hein. Bon, bah, c'est pas les vacances pour les salariés de la clinique Porte-Océane, qui étaient mobilisés pour de meilleures conditions de travail. 80% du personnel en grève le 9 avril, avec un blocage d'un rond-point devant la clinique, avec distribution de tracts également. Négociation, bah, c'est l'intersyndicale et la direction hein, qui s'en occupent pour une augmentation de l'effectif, l'augmentation des salaires. Et il y a eu reconduite de la grève à tous les services et avec un soutien des médecins quand même. Plus tard, la direction capitulait sur les remplacements et salaires, hein, et qu'elle augmentait de 2%, et primes pour les smicards et 30 euros pour le général. Pas De Gaulle, hein, le général, je veux dire, une augmentation générale. Voilà. 4 jours grévés dans cette clinique privée du groupe Cisio. Poursuivre également sur une nouvelle réjouissante, c'est Fandard, je dirais, tout simplement. C'est le cas pour les salariés de STN Group, sous-traitant cette société des hôtels Chicos parisiens pour le nettoyage. C'était le 10 avril avec une grève et des revendications qui touchent les minima conventionnels. Convocation également des délégués syndicaux en temps utile, du CE, du comité d'entreprise et du CHSCT, respect des délais, réponse écrite des réclamations dans les meilleurs délais, respect de l'évolution de carrière en privilégiant les salariés en place. La grève a débuté donc à 7h et à 10h30, l'affaire était réglée. Un accord donc signé avec la direction pour satisfaire l'ensemble des revendications, avec bien sûr le soutien de la CGT, de l'hôtel Parc Yacht Vendôme. Voilà, j'espère avoir été très précis. Ensuite, c'est un cas de, je vais citer un cas de délégation de pouvoir hein, de service public à service privé. Ça se multiplie chez les partisans du moindre effort. Hein. Cet exemple, par exemple, donc à Sarreguemines, où pour cause de manque de personnel ou de budget, d'ailleurs, la municipalité, elle n'est pas la seule hein, dans ce cas, délègue à une société prestataire le service cantine des écoles. Enfin, du moins, c'était la question qui était en cours. Alors, le problème ici, c'est qu'actuellement, les repas sont préparés par l'Office Mosellan des activités pluri-éducatives. En plus court, ça fait OMAP. Or, l'Office a foiré l'OMAP, donc a foiré son service. Pas de repas, pas de cantine. Donc, les parents ont dû se débrouiller à filer à bouffer à leurs enfants. Donc l'OMAP, c'est une association à but non lucratif. Les tables étaient vides pour 450 enfants. Ces associations ou entreprises sont tentantes hein, pour les municipalités. Alors on paye peut-être moins que du personnel municipal. Il n'y a rien à gérer. Ça arrive tout cuit, si j'ose dire. Ouais, au diable, au plus, le communalisme, parce qu'il faudrait bien qu'on en reparle un petit peu de ce communalisme qui est très intéressant et qui n'est pourtant pas mort. Il serait bon à tous et toutes de s'y remettre si toutefois on s'y est mis un jour, mais je pense que oui quand même, il y a des exemples là-dessus. Et au plus également, à la poubelle, donc la délégation, dans ce cas, tout azimut. Quant à l'OMAP, je suis un peu sceptique sur sa réelle implication à but non lucratif et qui propose ses services telle toute bonne entreprise qui fait du bénéfice en fait. Hein. Alors c'est une association de droit local. Alors je suis allé rechercher un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Une association de droit local qui est née en 1996, qui ne déclare aucun bilan ni compte annuel. Alors peut-être qu'elle ne le souhaite pas, hein. Peut-être aussi a-t-elle le droit. Aucun lien financier, rien, selon le site Vérif. Par contre, elle a engagé une procédure contentieuse à l'égard du syndicat intercommunal commune intercommunale d'Ingsming en Moselle, qui doit lui verser 51 414 euros avec une provision de 16 914 euros en 2016. La procédure portait sur de l'enrichissement sans cause à propos de prestations. Alors je suppose que cette intercommunalité là avait fait payer des choses et n'avait pas repayé ce qu'il fallait. Enfin, je ne sais pas, quelque chose d'assez identique, quoi. Enfin, je pense. Voilà pour ce qui est de cette deuxième page.
D'accord. On va aller faire un petit tour du côté de Tours d'abord.
Ouais, on va partir un peu dans le nord là. Donc à Tours, parce qu'hier, donc mardi 17 avril, il y avait une mobilisation lycéenne qui s'est faite contre le projet de loi Vidal et Parcoursup. Et une lycéenne qui était mobilisée a été attaquée au couteau par des militants de l'extrême droite. Donc cette élève qui était mobilisée contre la loi Vidal a été attaquée au couteau par trois militants de l'extrême droite qui étaient cagoulés. L'agresseur pourrait être un royaliste de l'Action française, donc information qui reste encore quand même à confirmer. Un rassemblement de soutien réunissant une soixantaine de lycéens lycéennes a eu lieu en milieu de l'après-midi devant le lycée Balzac. Donc, pour plus de détails, aux alentours de 13h dans une ruelle près du lycée Balzac, trois militants d'extrême droite cagoulés ont agressé une lycéenne du fait de son implication dans le mouvement lycéen à Tours contre la loi Vidal et Parcoursup. Selon des étudiants du collectif contre la loi Vidal, l'auteur des coups de couteau pourrait être membre de l'Action française. Donc citation, « Depuis le début du blocus, on se fait menacer par deux ou trois étudiants royalistes de l'Action française. » Donc ça, c'est un témoignage d'une étudiante du collectif, du coup. Autre citation, enfin, de la même étudiante, qui nous explique qu'ils étaient cagoulés, ils étaient trois. La lycéenne était avec ses écouteurs, elle a vu trois personnes l'attaquer, elle a mis son bras devant sa tête, elle a reçu trois entailles, donc pas très profondes, mais bon, quand même assez traumatisant. On a appris ça pendant l'Assemblée Générale où le blocage illimité de la fac avait été voté. Quand on a appris ça, on est tous allés à Balzac pour protester contre l'agression. Donc après l'agression, la lycéenne a réussi à s'enfuir. Elle a été transportée en urgence au CHU pour prendre en charge ses blessures et elle a finalement pu sortir dans l'après-midi avant de porter plainte. Après une assemblée générale, les étudiants et étudiantes ont décidé d'un rassemblement de soutien à la lycéenne attaquée au couteau devant le lycée Balzac à partir de 15h. Les forces de police étaient venues en nombre pour « accueillir » entre guillemets les lycéens et étudiants. Malgré la présence d'un cordon de CRS et de plusieurs membres de la BAC, le rassemblement de soutien a bien eu lieu et a réuni une soixantaine de personnes. Donc, il faut savoir qu'en fait, plus tôt le matin, aux alentours de 9h, les forces de police avaient débloqué le lycée Balzac. Dans la foulée, il y a un étudiant qui a été interpellé, accusé d'outrage. Donc le lycée Balzac avait été bloqué vers 8h du matin, donc à peine une heure, les forces de l'ordre sont intervenues. Donc ils se sont mis en ligne et ils ont débloqué, puis ils nous ont repoussés. On était obligés de reculer. Un de nos potes s'est fait interpeller car il a crié un slogan. Il est passé en garde à vue. On est resté assez longtemps et après on est parti. Et c'est sur les coups de 13h que la lycéenne s'est fait attaquer. Donc témoigne une étudiante qui était présente sur place. Alors bon, l'étudiant a été relâché. Cette présence policière, ce matin, était aussi aux abords des lycées Grandmont et Vaucanson. Le collectif étudiant contre la loi Vidal a publié un communiqué dénonçant les violences policières de vendredi. Voilà.
Donc voilà, ouais. Donc c'est encore une attaque, parce que du coup, ce n'est pas la première, hein, si vous avez suivi un peu l'actualité, que ce soit sur les occupations de fac ou sur l'immobilisation des lycéens et des lycéennes. Puis voilà, c'est de plus en plus violent. Là, ils sortent le couteau, ils auraient pu la blesser beaucoup plus gravement que ça.
Bon, c'est pas la première fois, d'ailleurs.
Voilà, on les laisse tranquillement faire un peu ce qu'ils veulent, là, depuis un grand moment maintenant. On reviendra tout à l'heure sur peut-être deux minutes sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur Lyon, mais voilà, du coup, c'est. Encore une agression de militants d'extrême droite, sur des personnes qui luttent juste contre un projet de loi complètement injuste. Et puis là, du coup, on va partir à Nantes sur un truc complètement hallucinant. Voilà, on va vous laisser.
Voilà, du coup, du fait de la police cette fois. Alors bon, enfin, encore une fois, parce que de toute façon, c'est assez souvent. Mais là, du coup, ils ont quand même passé un gros stade. Parce que du coup, c'est la police judiciaire de Nantes qui vient d'être saisie pour enquêter sur des faits d'enlèvement et de violence. C'était samedi, en fin de manifestation contre les expulsions. Un jeune migrant de 17 ans dit avoir été frappé, chloroformé, puis embarqué dans une voiture avant d'être interrogé puis relâché. La police judiciaire de Nantes vient d'être saisie par le parquet pour enquêter sur des faits d'enlèvement et de violence. Samedi dernier, en fin de manifestation contre les expulsions dans la cité des Ducs, jeune migrant de 17 ans dit avoir été frappé, chloroformé puis embarqué dans une voiture avant d'être interrogé à genoux dans une grande cour avec des arbres avant d'être relâché. Il désigne 7 hommes au total et porte plainte. Ah oui, du coup, les hommes, en fait, on ne sait pas si c'est des flics, du coup, voilà. Ok. La police judiciaire prend l'affaire au sérieux et va rapidement entendre le jeune homme. La CGT a été la première à dénoncer cette affaire. Le jeune migrant faisait partie du cortège de manifestants. Anthony Lemaire est responsable de la vie syndicale à l'UDCGT 44. Ce sont des faits d'une très grande gravité, une rafle qui s'apparente à des méthodes fascistes qu'on pouvait voir sous Pinochet ou Franco. Le syndicat ajoute qu'avec des méthodes comme celle-ci, c'est le droit de manifester qui est compromis. La CGT attend de voir comment l'enquête va progresser et se réserve la possibilité, elle aussi, de saisir la justice. Donc du coup, mystère sur qui sont ces gens.
On essaiera de suivre ça, parce que je pense du coup, s'il y a enquête, là, ça devrait quand même... aller plutôt loin, parce que là, du coup, s'il s'agit vraiment de flics derrière, enfin, du coup, je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui va se faire. Enfin, du coup, on essaiera de vous tenir au courant sur cette affaire-là. Et comme on parle de violence policière, on voulait vous reparler vite fait de la famille Traoré, donc Adama Traoré, hein, vous en souvenez sûrement, on a beaucoup parlé lors de ces émissions. Et surtout là, il y a eu quelque chose qui a été mis sur le net là, aujourd'hui ou hier, voilà, avec un véritable acharnement contre la famille Traoré, qui vient d'atteindre un stade au-delà de l'imaginable. Donc Sérène Traoré, donc, est un des frères d'Adama Traoré, a été condamné du coup à 4 mois de prison ferme pour, entre guillemets, outrage contre Nathalie Groux, qui est la mère de Beaumont-sur-Oise. Outrage, toujours entre guillemets, qui se serait passé le 22 juillet 2016, soit 3 jours après qu'Adama ait été tué par des gendarmes de Persan. Il s'agit du 4e frère d'Adama Traoré à être emprisonné après Bagui, Yacouba et Youssouf. Pour le moment, Sérène reste libre, donc la famille fait opposition avec l'avocat. Nous ne savons pas si les gendarmes viendront le chercher pour l'emmener en prison. Le tribunal de Pontoise, avec la complicité des gendarmes, cherche à mettre tous les frères d'Adama en prison. Il s'agit de briser la lutte de la famille Traoré et des habitants et habitantes de Beaumont-sur-Oise. Nous ne lâcherons rien jusqu'à la mise en examen et la condamnation des gendarmes responsables de la mort d'Adama. Mobilisons-nous pour exiger que cesse l'acharnement contre la famille Traoré et ses soutiens. On ne doit pas laisser passer ça. C'est notre dignité à toutes et tous qu'on cherche à piétiner. C'est notre humanité qu'on cherche à nous enlever. Soyons solidaires, parlons d'une seule voix. Il y a pas mal de documents qui sont trouvables sur le net maintenant par rapport à Adama Traoré. Pas mal de conférences qui ont été faites notamment par une de ses sœurs. Assia Traoré, si je me souviens bien de son prénom. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. N'hésitez pas à vous rendre sur le net pour chercher tout ça. Et si vous souhaitez soutenir financièrement la famille Traoré, parce que toutes ces arrestations, tous ces procès ont un coût, il y a moyen de le faire par le net. Voilà, il y a un site, c'est okpal.com/adama-traoré. Et là, vous pouvez donner un peu de thunes si vous le souhaitez, voilà, pour aider la famille. J'avais encore peut-être un petit truc, étant donné on va être... On va finir peut-être juste à l'heure, mais j'ai moins de choses que prévu, que d'habitude. Du coup, c'est par rapport au droit de grève. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un projet de loi déposé par un député, alors je ne sais plus de quoi il est, ça va être La République En Marche ou Les Républicains, voilà, visant à encadrer encore un peu plus le droit de grève. Et le MEDEF, lui, va un peu plus loin, il appelle carrément à sa liquidation. Donc Pierre Gattaz, hein, qui est toujours président du MEDEF, a donné le sens de ce projet dans une tribune. Alors, dans une tribune, pas de n'importe quel journal, hein, c'est Les Échos, hein, forcément. Et voici la thèse un petit peu de sa classe à lui, sa classe dominante. Alors c'est entre guillemets, hein, l'exercice du droit de grève devient l'expression du refus d'un système économique. Donc ils veulent essayer, forcément, hein, la grève c'est forcément politique de toute manière, mais ils veulent essayer de politiser tout ça pour l'interdire, tout simplement, en disant voilà, comme c'est politique, ça n'a rien à faire dans l'entreprise. Il continue, or notre modèle économique résulte d'un choix de société validé par des élections démocratiques, forcément. Tous les syndicats et les salariés qui refusent la nécessité libérale de destruction de la SNCF et par là la loi de la concurrence mondialisée et du profit participent donc à une grève politique. Donc ceux qui sont en grève en ce moment, c'est une grève politique, c'est pas une grève de salariés selon le MEDEF, hein, bien sûr. Toute grève politique s'exclut d'elle-même de la défense des intérêts des salariés qui par nature sont du domaine du consentement au système capitaliste. Voilà, et entre guillemets, permettre à des syndicats de continuer de faire de la politique anticapitaliste et bloquer le pays, c'est laisser le droit fondamental de la grève être détourné. Donc voilà, il essaie de manipuler un peu ce droit de grève. Ça, c'est marrant. Donc, Gattaz en appelle aux syndicats réformistes pour qu'ils dénoncent les excès de leurs collègues et veut qu'on en finisse par une loi répressive avec toute trace de mise en cause de son système de profit. Donc voilà un petit peu sur quoi on tend. Alors, c'est un projet de loi officiel qui a été demandé par un, je ne sais plus quel député là. Alors, on ne sait pas si encore il sera examiné, mais c'est vraiment pour encadrer encore plus ce droit de grève qui est déjà bien entaché, notamment dans certains métiers où il faut 48 heures avant annoncer qu'on va faire grève, etc., etc. Là, ils veulent vraiment du coup limiter le plus de trucs, mais ils osent tout en ce moment, autant oser, ça marche plutôt bien pour le reste. Donc voilà, et je crois que j'avais peut-être juste un dernier petit truc, parce que la lumière du frigo s'installe. Je sais plus où ça va venir. Oui, c'était par rapport au à la garde à vue, du coup un petit changement de loi qui a été fait dans une loi comme ça, qui est passé un peu à trave. Il faut savoir du coup que le Conseil constitutionnel contraint désormais toute personne en garde à vue de donner son code pour déverrouiller son téléphone. C'est dans une décision qui est passée inaperçue du coup le 30 mars dernier. Cette décision fait suite à une question donc prioritaire de constitutionnalité portant sur un article du code pénal qui punit donc de 3 ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende le refus de remettre aux autorités judiciaires une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. On peut penser que c'est la même chose aussi pour un disque dur qui serait du coup une clé USB qui serait cryptée. Cet article donc est paru dans la fameuse loi antiterroriste de novembre 2001 qui avait suivi les attentats du 11 septembre 2001 est aujourd'hui utilisé pour tout type de délit. Donc voilà, vous pouvez être arrêté pour n'importe quoi et on va vous prendre vos téléphones et on va vous demander votre code pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Il y a un avocat notamment, enfin je pense qu'il n'est pas le seul, qui estime que cette obligation est contraire au droit de se taire. Voilà, maintenant reste à savoir si la décision du Conseil constitutionnel sera suivie par la Cour européenne des droits de l'homme qui consacre le fait de ne pas s'auto-incriminer, poursuit l'article de presse. Donc c'est très important parce qu'une garde à vue, ça peut arriver n'importe quand pour pratiquement n'importe quel motif maintenant. Voilà, et si on vous oblige à faire ça, effectivement, vous avez le droit de garder le silence jusqu'à ce qu'un avocat qui vienne vous défendre. Mais le fait de donner son code de téléphone permettra déjà aux flics d'avancer, de regarder un peu ce qui se passe dans votre vie personnelle et militante. On va peut-être juste rappeler les annonces. Voilà, on a gratté un peu. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On gratte un peu. Rappeler les annonces.
L'autorisation d'aller.
Ouais, c'est chaud, ça. Donc demain, manif du coup interprofessionnel à l'appel de la CGT qui a été suivi par la FSU et Solidaire, mais pas par les autres syndicats. Une tentative de faire converger les luttes. Voilà, avec un appel à manifester à 13h30 au départ de la place Jules Ferry, c'est au Brotteau, arrêt de métro Brotteau. Donc voilà, la convergence des luttes, c'est quoi? C'est d'essayer de faire de toutes les luttes qui se passent en ce moment, que ce soit à l'hôpital, dans la justice, dans l'éducation, à la SNCF, dans les universités, d'amener tout le monde en même temps dans la rue pour protester. Voilà, c'est une tactique qui est notamment utilisée par certains syndicats, notamment la CGT, Sud, et qui par contre qui est vraiment réfutée, notamment par la CFDT, qui elle préfère négocier secteur par secteur, et par le gouvernement qui refuse cette convergence des luttes. En même temps, ils peuvent en avoir peur, il n'y a que par ce moyen-là, a priori, qu'on pourra arriver à les faire reculer. Donc rendez-vous demain à 13h30 au Brotteau, et on a dit ce samedi 21 avril, exposition 30 ans de lutte pour le transport gratuit, et le soir, à partir de 18h, un débat, concert, hip-hop et open mic, en soutien à Jamais Sans Toi, ça se passe au Toy Toy, le Zinc, à Villeurbanne. Et on vous rappelle de vous tenir un peu au courant. Voilà, vous réécouterez l'émission si vous le souhaitez par rapport au communiqué de presse de la LGP, Lesbian Gay Pride, et du planning familial par rapport à un débat sur la bioéthique qui est tenu vendredi en fin de journée avec une invitée qui n'est autre qu'une personne très importante d'Alliance Vita, voilà, association complètement réactionnaire dont fait partie maintenant Alexandre Gabriac, qui était avant Jeunesse Nationaliste. Donc il est possible qu'il pointe tête bien moche ce vendredi à 17h. Donc tenez-vous au courant un petit peu s'il y a quelque chose qui se passe, si ce débat est maintenu, si cet invité est maintenu. Ça risque peut-être de bouger un peu.
Voilà.
Merci.
Et on rappelle aussi que la Plume Noire, c'est toujours au 8 rue Diderot, dans le premier arrondissement de Lyon, avec des ouvertures le mercredi de 5h, enfin du moins de 17h à 19h, et le samedi de 15h à 19h. Voilà. On a du monde en ce moment, c'est bien, c'est sympa, il y a de l'ambiance, et il y a des bouquins, il y a tout ce qu'on veut. Oui.
Et oui.
Et on dit à mercredi prochain.
À la semaine prochaine. Bonne soirée.
Salut.